Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et on est très contents d'accueillir à nouveau du monde en studio et en direct, dans le respect des gestes barrières évidemment. Au programme de cette émission, on va parler squat au pluriel, expulsion et droit au logement, en compagnie d'Alix, Anatole et Adrien, militants au sein du collectif La Grande Ours, squat autogéré situé quai Robert Fèvre qui propose de l'hébergement aux personnes précaires, une fripisserie, un free shop et de nombreuses autres choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. On reviendra également sur le Rio, ce squat qui avait été créé début décembre rue des Jardins et expulsé une semaine après. La Grande Ourse étant également à l'appel de la manifestation de samedi dernier en faveur d'un logement digne pour toutes et tous. Vous avez pu l'entendre, un reportage en immersion réalisé par Léo dans l'émission d'hier. Et c'est également Léo qui va revenir avec nos invités sur ces différents sujets. Salut Léo.
Salut Thibaut.
Et puisqu'on va avoir pas mal de choses à voir dans les 30 minutes à venir, je vous propose qu'on commence sans plus tarder et je te laisse la parole.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, effectivement, on prolonge la Covidienne diffusée hier. Il s'agissait d'une immersion dans la manifestation du 9 janvier dernier à Angers, organisée à l'initiative de la Grande Ourse pour soutenir les habitantes et habitants de ce squat. Les participantes et participants étaient également appelés à soutenir plus largement le droit à un logement pour toutes et tous. Je vous invite à écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site de la radio pour les détails. En tout cas, on pourrait résumer cet après-midi militant du 9 janvier en trois temps. D'abord, le rassemblement bloqué sur l'esplanade de Cœur de Maine. Ensuite, un défilé improvisé dans la Doutre, et enfin, la tentative avortée de traverser la Maine pour gagner le centre, avec un retour du cortège vers la Grande Ourse. Première question, donc, Anatole et Alix, quel bilan vous tirez de cette mobilisation? Il y a beaucoup à dire, on peut peut-être commencer par le nombre de personnes, et ensuite on reviendra sur le déroulement de la mobilisation.
Bonsoir, merci de nous avoir invités, hein, déjà, hein, c'est très très sympa de votre part. Bah, le bilan, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je pense qu'on a été assez déçus de voir comment ça s'est déroulé, de voir que globalement, les consignes qui ont été données aux forces de police, ça a été plus ou moins d'empêcher purement et simplement qu'ait lieu le rassemblement. On a pu voir que dès le début, le régime de maintien de l'ordre qui a été opté par la stratégie préfectorale, c'est un régime extrêmement dur, extrêmement militarisé. C'est-à-dire qu'en très très peu de temps, on a vu un grand nombre de camions de CRS arriver pour ne pas faire en sorte que le rassemblement se déroule, empêcher son déroulement. Donc je pense que déjà ça, et on l'a vu dès le début, c'est marqué très fortement le type de maintien de l'ordre que cette préfecture entend mener. C'est également décourager tout un tas de personnes qui étaient venues manifester tranquillement, et notamment des familles, des personnes âgées, etc., qui, voyant l'importance du dispositif, ont été découragées. Donc leur droit de manifester a été purement et simplement bafoué. On s'interroge puisqu'il n'y avait pas eu de communiqué de la préfecture pour interdire ce rassemblement, comme c'est régulièrement le cas à Angers, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même régulièrement des rassemblements qui sont purement et simplement interdits. D'ailleurs, quand on regarde lesquels, c'est un petit peu inquiétant parce que des rassemblements de certaines mouvances identitaires sont très rarement explicitement interdits, et quand elles ont lieu, elles ne sont pas enrayées. Pour autant, des rassemblements comme il y a pu y avoir par le passé, à savoir des rassemblements de gilets jaunes, des rassemblements antifascistes, notamment contre le local de l'Alvarium, ou encore des rassemblements Black Lives Matter, ont été interdits de manière nominative par la préfecture. Là, on n'était pas sous le coup d'une interdiction, il n'y a pas eu de communiqué de la préfecture dans ce cadre-là, et pour autant, la manifestation n'a pas eu lieu. Le droit de manifester, me semble, a été bafoué, même si on est assez content de la façon dont quand même 200 à 300 personnes ont décidé tout de même de défiler, tant ou de même de soutenir la question du droit au logement sur Angers. Donc ça, c'était une victoire, et puis je trouve que c'était assez drôle aussi comment ça s'est déroulé toute cette manifestation, mais c'est des signes très inquiétants, d'autant que dans le centre-ville, d'autres manifestaient pour d'autres causes, en l'occurrence pour limiter l'accès aux droits de certaines populations, tandis que nous on militait pour que l'accès à certains droits qui sont validés par le droit soit respecté, et que cette haute manifestation qui était celle en fait des anti-PMA tout simplement s'est déroulée sans force de l'ordre et tranquillement. Et du coup on se demande s'il n'y a pas aussi un lien entre le fait qu'on manifestait et qu'ils manifestaient aussi, et qu'on nous ait purement et simplement interdit centre-ville.
Tu nous as dit que la préfecture n'avait pas fait de communiqué d'interdiction de la manifestation, mais pour autant il me semble que votre manifestation n'avait pas été déclarée en préfecture. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien?
Alors je sais pas, tu veux peut-être en parler un petit peu?
On ne sait pas si c'est forcément par rapport à la Grande Ourse, le fait que potentiellement on avait une aide extérieure, une aide de quelques collectifs écolos qui étaient là pour nous apporter de l'aide, des gens de l'extérieur. On a mobilisé en tout, selon par exemple Ouest France, 150 personnes. C'est enlevé aussi les personnes qui ont été découragées par les forces de police avant, par les contrôles dès la sortie de la Grande Ourse, juste en traversant le pont. Et on se demande vraiment si c'est pas aussi lié à le fait qu'il y ait possiblement un affrontement qui puisse arriver, ou je sais pas, en tout cas deux cortèges qui se rencontrent et beaucoup de problèmes qui pourraient arriver et qui découleraient de ça, quoi.
Et puis pour revenir précisément sur cette question de la déclaration et des autorisations, enfin, on est quand même dans un cadre en France qui est assez spécifique, puisque le droit international consacre le droit de manifester, officiellement la France aussi, mais ce que le droit international explique, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation à dispenser par les autorités pour se rassembler. La France, elle joue un petit peu sur les mots, elle dit qu'il n'y a pas d'autorisation, mais il y a une déclaration préalable à faire qui peut donner lieu ensuite à une interdiction explicite. Donc déjà, nous, dans le fond, je pense qu'on conteste cette notion-là, c'est-à-dire que si le droit international consacre le fait de ne pas avoir à demander une autorisation, parce qu'on comprend bien à quoi ça sert. Imaginons que on soit dans un régime encore plus dur que celui-ci et qu'il y a des manifestants qui défendent pour leurs droits civiques de base, ce qu'on fait en fait, hein, en réalité. Ça ne peut pas être de la responsabilité du pouvoir exécutif que d'autoriser ou de ne pas autoriser une manifestation. Donc dans ce cadre-là, on ne voit pas exactement le sens profond de la notion de déclaration. Pour autant, il faut aussi souligner la chose que, en effet, il n'y avait pas de déclaration qui a été faite. Il y a régulièrement des manifestations, très très régulièrement, qui se déroulent sans déclaration. Et ne voyant pas sur le site de la préfecture d'informations concernant une interdiction explicite, on n'a absolument pas supposé que la manifestation allait se dérouler telle qu'elle s'est déroulée.
Et on peut peut-être souligner une note un peu plus joyeuse, le côté festif de la manifestation, puisque le cortège est parti dans la Doutre. Et c'était peut-être, on a peut-être moins parlé, mais en tout cas on voyait plus des gens partager une bière, un verre, partager une crêpe. On a vu aussi du jonglage. Il y avait un côté peut-être plus militant et beaucoup plus calme, car au final la manifestation, il y a eu quelques moments de tension avec les forces de l'ordre, mais dans l'ensemble ça s'est bien déroulé.
Ouais, je pense que en gros le but pour nous était vraiment de toucher un maximum de personnes, parce que le droit au logement, au final, vraiment très peu de visibilité par rapport à ça. On s'est dit qu'on allait toucher un maximum de personnes, et le but était de faire du bruit, selon les organisateurs, je pense, avec de la musique, avec du jonglage, avec de la nourriture à donner, enfin faire quelque chose de joyeux. Après, ça s'est retrouvé à défiler dans la Doutre, parce qu'en fait on peut pas traverser un pont comme ça, bloqué par des CRS, on pouvait rien faire. Donc la seule chose qu'on a pu faire sur le coup, c'était de chercher un endroit où on pouvait essayer de toucher un maximum de personnes. Le cortège a pu un peu défiler à droite à gauche dans la Doutre, mais la Doutre, c'est ce que c'est, quoi. C'est un endroit où il y a vraiment très peu de choses. Et du coup, on a pu revoir après, il y a eu par exemple des feux de poubelle, il y a eu des rassemblements qui ont duré longtemps sur le pont. Et là, je pense que ça a été la seule chose de visible, en fait, de loin. Ça a été ce feu au loin, c'est la seule chose qui va donner peut-être des photos, qui va donner peut-être la visibilité de certaines personnes. Le fait que ça se passe cœur de Maine, déjà, ça nous a donné une certaine visibilité, mais au final, personne n'a pu s'arrêter. Les gens n'ont pas pu forcément nous joindre, quoi.
Et je me permets d'appuyer une chose, il y a vraiment quelque chose que les théoriciens du maintien de l'ordre connaissent bien, c'est-à-dire que le niveau d'intensité, le niveau de tension dans une manifestation est très très rarement le fait des manifestantes et des manifestants. C'est toujours la façon dont on va envisager la forme du maintien de l'ordre qui va générer ou pas des tensions. Dans le sens où, on peut regarder sur Angers, hein, des manifestations en soutien à la Grande Ourse, il y en a eu quand même un paquet. Je me rappelle celle qu'il y avait eu il y a 2 ans, qui avait donné lieu à un battle de danse gigantesque devant les marches de la mairie, où il y avait eu des journalistes du Courrier de l'Ouest et de l'Ouest France qui étaient venus nous voir en disant mais c'est incroyable, parce qu'on sortait la période de Gilets jaunes, c'est incroyable, une telle ambiance dans une manifestation, etc. Toutes les manifestations de la Grande Ourse sont toujours passées comme ça. Là, ça s'est passé légèrement différemment, mais parce que immédiatement a été instauré un rapport très dur, c'est-à-dire qu'on a empêché immédiatement les gens de se rassembler et que du coup ça crée évidemment un sentiment de tension quand les gens veulent simplement se rendre devant la préfecture, parce que c'est quand même la préfecture qui est auteur des expulsions, etc., qui veulent simplement se rendre devant le conseiller départemental, car c'est le conseiller départemental qui remet les mineurs non accompagnés à la rue, qui veulent se rendre devant le tribunal de grande instance, car c'est le tribunal de grande instance via le procureur qui a ordonné l'expulsion du Rio, et qu'on leur empêche ça, et ça de manière militarisée, et bien évidemment que ça crée des... Voilà, donc c'est pour moi toujours le maintien de l'ordre, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays il y a des doctrines de maintien de l'ordre tout à fait différentes où on cherche la désescalade et non pas l'attention, la stratégie de l'attention comme on l'a vu samedi dernier, et c'est assez déplorable.
Et justement, tu viens de mentionner le cas du Rio, donc on va passer à présent au deuxième volet de cette émission. On sait le contexte immobilier très délicat à Angers, il y a plusieurs milliers de logements qui sont inoccupés et dans le même temps une demande qui est très importante. Pour pallier à cette urgence, des individus avaient ouvert un nouveau squat dans un local appartement à un promoteur immobilier, rue Desjardins, toujours à Angers, le refuge des oubliés donc, le Rio. Installé autour du 10 décembre, les occupantes et occupants ont été expulsés moins d'une semaine plus tard, et on reçoit ce soir Adrien qui était impliqué et présent au Rio. Adrien, en quelques mots, qu'est-ce que c'était le Rio ?
Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau, c'est vraiment un plaisir de pouvoir m'exprimer. Le Rio... Déjà, c'est, comme il le dit le nom, refuge des individus oubliés, qui a été... En fait, moi aussi, j'ai été au courant de l'ouverture de cet établissement. Et vu que j'étais quelqu'un à la rue, sans logement aussi, et j'étais donc obligé de me rendre à Rio pour pouvoir avoir un logement, en fait. En gros, Rio était là pour loger des gens qui sont dans la difficulté. Là-bas, j'ai pu rencontrer, j'ai vu des gens. Les quelques jours que j'ai passé là-bas, j'ai vu des étudiants, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des personnes défavorisées, des personnes vraiment dans le besoin. Et je crois que l'ambiance que j'ai pu voir là-bas, ça m'a vraiment réchauffé le cœur de voir qu'il y avait des gens vraiment qui prenaient de belles initiatives, qui pensaient aux personnes vraiment oubliées comme... le nom le désignait, parce que l'ambiance qu'il y avait en ces quelques jours, vraiment, j'ai vu cette harmonie, cet amour, de la joie sur le visage des gens qui parlaient, qui sentaient vraiment qu'ils étaient, qu'ils avaient un peu d'espoir en fait, que les choses allaient un peu pour eux.
Donc le Rio, c'était bien beaucoup plus qu'un toit, c'était vraiment des personnes qui se retrouvaient ici, issues de divers horizons, et qui aimaient se retrouver dans un grand moment de solidarité finalement. Et pourtant, le squat a été très rapidement évacué le 17 décembre, dans la matinée. 60 policiers étaient mobilisés pour un groupe de 10 personnes à peu près. Tu étais présent, comment ça s'est déroulé, cette évacuation, cette expulsion plutôt ?
Cette expulsion, en fait, j'ai déjà été surpris le matin, c'était aux environs de 8 heures, j'étais encore allongé. Mais je dormais pas, mais j'étais juste allongé. Et puis j'ai entendu un bruit sourd au couloir police. Je me suis dit, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et du coup, je me lève, j'ai entendu cogner la porte, police ouvrait, et ils sont entrés, ils ont cassé la porte, ils sont entrés, ils ont demandé de sortir. Ben, on est sortis, ils nous ont regroupés dans des salles en haut, et après ils nous faisaient descendre un par un en bas. Et puis j'étais surpris d'ailleurs, hein, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est le nombre de personnes que j'ai vues, le nombre de CRS que j'ai vues au couloir. Déjà au premier niveau, je pensais que j'avais trop vu, mais quand je suis descendu, je me disais, mais c'est... Je comprenais pas, en fait. C'était le nombre, et c'était... En tout cas, j'ai pas de mots, en fait, pour définir ça.
Où est-ce que tu es logé en ce moment?
En ce moment, oui, après ça, oui, effectivement, on a pu, quelques personnes qui étaient là, on a pu nous loger à Cholet. C'est Cholet qui a... je crois 60 km d'ici Angers. Et c'est vraiment une grosse difficulté encore, parce que d'être logé sur Cholet et de ne pas avoir de revenus, vu que je suis un demandeur d'asile, et de ne pas avoir de revenus, de ne pas avoir d'aide, et du fait que toutes mes démarches administratives se passent sur Angers, et que du coup... pour prendre le transport, le train et tout, venir ici chaque fois, au moins deux fois par semaine pour regarder mon courrier ou bien pour les rendez-vous administratifs, c'est vraiment pénible pour moi.
Et tu sais, tu as d'autres nouvelles des personnes qui étaient avec toi à Rio? Est-ce qu'il y a eu d'autres solutions de relogement qui ont été proposées?
Oui, j'ai des nouvelles de quelques personnes, pas toutes, parce que je ne connaissais pas non plus toutes les personnes qui étaient sur Rio. J'ai des nouvelles, oui, il y a deux autres qui sont logés à l'hôtel avec moi. Bon, entre-temps, on ne sait pas pour combien de temps, bien sûr. Pour le moment, on est en attente, quoi. On ne sait pas combien de temps on est logé à l'hôtel sur Cholet.
Merci, merci pour ton témoignage, Adrien. Le 29 octobre 2020, Sarah avait reçu Dorine et Axel du collectif La Grande Ours, qui venaient d'être sous le coup d'une expulsion après décision de justice. Les habitantes et habitants devaient quitter les lieux le 30 octobre. Le tribunal ne leur avait pas accordé la trêve hivernale, un délai de 2 mois ou même de 2 semaines pour évacuer le bâtiment. Il a par ailleurs considéré qu'il avait voie de fait et pas assez de preuves que les personnes hébergées étaient vulnérables. Alix, tu peux peut-être expliquer plus précisément ce qu'est une voie de fait ?
Ah, c'est tout le débat justement. C'est un débat, c'est-à-dire que définir la voie de fait, en fait, il n'y a pas de contenu juridique précis, quoi. C'est-à-dire on peut regarder tout un tas de textes, il n'y a jamais dans aucun code voie de fait, 2 points, voilà quoi. Donc par contre, il y a des définitions jurisprudentielles. Grosso modo, il y a des rendus de justice, donc de cours d'appel, et puis plus loin de conseil d'État ou de cours de cassation, etc., qui vont se prononcer sur ce qu'ils et elles considèrent ou pas comme étant une voie de fait. Et il y a un peu deux doctrines qui s'opposent. Il y a la doctrine, on va dire, qui est celle de nos adversaires, là, en l'occurrence, et qui est assez dominante, hein, sur Angers, qui considère que d'être un occupant sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait. C'est-à-dire d'être entré dans un bâtiment sans avoir demandé l'accord au préalable du propriétaire, c'est en soi une voie de fait. Pour autant, dans beaucoup de traditions jurisprudentielles, que ce soit à Paris, à Toulouse ou dans la grande majorité des villes en réalité, la voie de fait, elle est définie d'une autre manière, à savoir c'est le mode d'entrée, mais pas simplement d'être entré sans avoir demandé l'accord propriétaire, mais qui soit fait par effraction, violence, menace, contrainte, quoi, en gros. Et c'est ça qui définit ni plus ni moins la voie de fait ailleurs. Et donc là, on nous a fait un rendu qui nous considérait comme avant commis une voie de fait puisqu'il n'y a pas eu d'accord préalable du propriétaire. Ça a un impact extrêmement lourd parce que du coup, si l'on considère que l'entrée dans les lieux s'est fait par voie de fait, on considère en même temps que les personnes concernant leur droit au logement n'ont aucune condition qui vont retarder l'expulsion pour que les personnes aient une chance de se reloger dans des conditions normales. En l'occurrence, dans le cas du droit au logement et surtout dans les pratiques d'expulsion décidées par la justice, il y a un certain nombre de garde-fous pour que ça soit pas extrêmement violent pour les personnes et qu'on n'accumule pas le contingent des gens qui se retrouvent à la rue. Donc en fait, il y a 2 mois qui sont prévus en toute période. 2 mois qui sont prévus entre la décision de justice et le moment d'expulsabilité réel. À cela s'ajoutent certains délais spécifiques, des délais qu'on peut demander en fonction de la situation des personnes. Par exemple, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait essayé de faire un parallèle entre le temps moyen d'attente des logements sociaux sur Angers, qui est de 18 mois, mais qui est oblitère à la réalité pour les hommes seuls, où ça peut monter à 36 ou 40 mois, parce qu'en fait, par exemple, les gens avec des enfants, et c'est tout à fait normal, sont prioritaires, mais du coup, le délai de 18 mois, c'est vraiment un délai moyen un peu trompeur, par exemple pour les hommes seuls, c'est bien plus longtemps. Donc indexer des délais supplémentaires liés aux situations spécifiques des personnes, l'objectif étant toujours de reloger les personnes. Il y a également des délais spécifiques qui peuvent être accordés selon des circonstances exceptionnelles, par exemple une guerre ou une crise sanitaire. On avait également sollicité des délais dans ce sens-là puisqu'il semblerait que nous soyons encore dans une crise sanitaire et on nous les a refusés évidemment. Et puis il y avait également une dernière chose qui est le fruit de luttes acharnées de militants de relogement d'un certain homme qui s'appelait l'abbé Pierre et qui avait réussi à faire en sorte que cette notion de trêve hivernale soit mise en place, soit sacralisée et soit absolument inconditionnel, quelle que soit la situation de la personne, si c'est un squatteur ou un locataire, etc. Puisque mettre des gens à la rue en hiver, on l'a vu encore, malheureusement, il y a un mois et demi sur Angers, c'est quelque chose qui est mortel, hein, la rue l'hiver. Et donc voilà, donc il y a tous ces dispositifs qui normalement tempèrent les expulsions, mais si le juge considère qu'il y a voie de fait, il peut faire tout sauter. Depuis quelques temps, le juge considérait systématiquement qu'il y avait voie de fait, mais disait, bon, en fonction de la situation des personnes, on va quand même donner les délais les plus critiques, à savoir les 2 mois en période estivale et les 6 mois de trêve hivernale en période hivernale. Là, ils les ont supprimés, purement et simplement, et c'est précisément pour cette raison-là qu'on va en appel, à savoir pour recaractériser cette question de la voie de fait.
Donc là, aujourd'hui, dans le dossier judiciaire, vous avez fait appel. Il y a eu d'autres évolutions depuis la fin du mois d'octobre ?
Alors du coup, il y a eu un appel qui a été formulé. Donc là, la date d'audience est le 9 février. On appellera probablement un rassemblement de soutien à ce moment-là, enfin en fonction de la situation, évidemment. On avait aussi tenté une mesure pour essayer de sortir les gens de la forme, parce qu'en fait il y a plein de formes de précarité, hein. Il y a des précarités économiques, il y a des précarités affectives, il y a aussi des vraies précarités psychologiques, et je parle pas que de psychopathologie. Le fait par exemple là depuis le 30 octobre d'être dans une situation d'expulsabilité, ça veut dire que tous les matins à 6h du matin, quelqu'un massivement des forces de police peuvent rentrer violemment et mettre les gens dehors. Donc au niveau de la stabilité psychologique, c'est pas gagné-gagné. Et donc on avait essayé de pallier un minimum cette chose-là en faisant une procédure un peu spéciale, je vais pas rentrer dans les détails du droit parce que voilà, mais qui essayait de tendre à ce que notre appel devienne suspensif, à savoir que de base la première instance a donné son avis et en attendant notre appel on peut se faire expulser. Et là on voulait simplement, pour la sécurité psychologique des personnes, mais aussi pour le respect du droit, parce que très souvent, quand un juge d'appel arrive avec un dossier où il n'y a plus de contentieux, c'est-à-dire, par exemple, il y a eu une expulsion, on lui demande de dire est-ce qu'ils avaient le droit ou pas de la triennale, le juge dit il n'y a plus de contentieux, donc moi je m'en lave les mains, enfin j'ai plus rien à voir avec l'affaire, quoi. Et nous, on trouve qu'il y a un problème technique du droit, à savoir cette qualification de la voie de fait, et pour nous, c'est absolument primordial, évidemment, que cet appel se fasse dans des bonnes conditions.
Vous aviez lancé, au moment de la décision d'expulsion, un appel à solidarité pour héberger les habitants des habitants, ou même vous aider à stocker du matériel chez des particuliers qui soutenaient la Grande Ourse. Est-ce que cette mobilisation a été à la hauteur de vos attentes ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, oui, dans le sens où quand même, déjà ça je veux vraiment le souligner, on ressent une solidarité, mais énorme, enfin je sais pas, là je parle, peut-être que tu peux en parler aussi en fait, mais en fait on ressent une vraie solidarité énorme au niveau de la Grande Ourse, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui nous amènent des dons tout le temps, il y a des gens qui sont présents en manif, etc. C'est vrai que le volet héberger les gens, c'est passé un cap que certains franchissent régulièrement, mais voilà, c'est-à-dire accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, même si nous on accompagne en disant écoutez on reste à disposition, etc. Il faut quand même avoir la place chez soi, et puis aussi se dire voilà, j'accueille un inconnu chez moi, c'est quelque chose. Mais je tiens à souligner, parce qu'on voit souvent ça dans les commentaires, il y a de plus en plus de personnes qui font ce pas là, qui hébergent et qui accueillent chez elles, chez eux, et face à la fois à la carence des pouvoirs publics en général et des politiques répressives menées contre les squats, et ben je pense qu'il faut continuer cette dynamique là de toute façon, là la solidarité elle viendra des gens en fait, de moins en moins des structures établies, j'ai l'impression, ou des associations. Les associations continueront la solidarité, elles, j'espère, puisque c'est les gens, les associations.
On va clôturer cette émission par une petite réflexion autour du concept de squat. Axel, qui était venu en studio et qui est membre du collectif en octobre, l'avait défini comme une propriété qui n'appartient pas aux personnes qui sont dedans. Il avait également présenté la Grande Ourse comme un lieu de vie avec une fripisserie, une friperie, de l'organisation de spectacles, une médiathèque aussi et de l'aide administrative. Et donc, on l'aura compris, c'est un vrai mode de vie alternatif qui a pris forme avec les années dans la Grande Ourse, comme c'est le cas, j'imagine, dans d'autres squats de la région et du pays. Mais c'est aussi un espace éminemment politique. Et donc, à ce titre, Anatole, en quoi le squat peut-il constituer un outil militant, rapidement ?
Bah alors, déjà, comme a pu revenir mon camarade qui a parlé avant, clairement, on ne peut plus trop attendre de l'État et on doit attendre des gens. Et du coup, on doit s'attendre à ce que les personnes fassent ce que l'État ne fait pas. Et là, par exemple, ouvrir un squat, c'est un des exemples de proposer une solution d'hébergement pour des personnes qui ne peuvent pas en avoir, puisque l'État a visiblement quelques carences à proposer des solutions, et que notre seule option, c'est au final d'offrir un toit à des gens. Et pour ça, certaines personnes vont du coup décider d'ouvrir des maisons, de se mettre possiblement en danger judiciairement ou physiquement face aux forces de l'ordre, pour au moins proposer cette solution avec les personnes qui sont concernées directement. Et ça a de politique, on peut proposer ça à n'importe quel endroit ou n'importe quel bâtiment qui sera vide. Dans le centre-ville comme dans les alentours de la ville, il y a énormément de bâtiments vides qui permettent de toucher un maximum de personnes, et ça va être aussi notre but, et qui permettent aussi d'aider principalement les personnes qui vont avoir, comme on en parlait tout à l'heure, des problèmes administratifs ou que sais-je, et qui se retrouvent à devoir aller à une préfecture, qui se retrouvent à devoir aller à des endroits qui sont en fait tout le temps dans le centre-ville, et tu n'as pas forcément le permis, tu n'as pas forcément la voiture, tu n'as pas forcément d'argent pour prendre le bus, donc au final il faut habiter dans le centre, c'est l'endroit qui coûte le plus cher. Et donc cette solution se trouve juste être la meilleure. Et après il va y avoir d'autres volets, c'est-à-dire que pour l'aide aux personnes pour le logement, c'est principal, mais on va avoir aussi le fait de pouvoir s'organiser ensemble. Dans le centre-ville, on va dire que c'est l'endroit où il y a le plus de personnes, enfin le plus de collectifs en tout cas, qui vont être par exemple pour une ville étudiante, énormément d'étudiants, donc on se retrouve à aider des étudiants à s'organiser. Là, un squat permet d'offrir du temps aux personnes qui habitent dedans, si tu n'as pas de travail à trouver, si tu n'as pas de... Bah, si t'as pas tout cet argent à donner à l'État pour acheter ta nourriture, pour avoir ton toit, tu peux donner ton temps au moins pour trouver des solutions. Bon, au final, tu vas pouvoir travailler pour avoir une certaine, ce qu'on va appeler autonomie, mais qui va pas être vivre en autarcie, mais qui va être vivre avec l'État, mais pas forcément main dans la main, mais essayer de profiter de ce que peut t'offrir la ville. Donc là, la ville va nous offrir au moins des réseaux, va nous offrir des cercles de solidarité où on va pouvoir faire porter certaines voix. On va pouvoir s'organiser avec des gens, du coup on a du temps, on a du matériel avec ces réseaux-là, parce qu'en fait on y accorde énormément d'importance. Et ça nous donne énormément de moyens aussi, on n'est pas soumis à certaines lois dont d'autres associations ou collectifs peuvent être soumis, c'est-à-dire qu'on a directement un endroit à proposer, on a du matériel à proposer, on peut répondre à certaines demandes aussi par rapport que ce soit au logement, que ce soit essayer de... On va dire de rendre toutes les luttes aussi centrales les unes que les autres, c'est-à-dire qu'on a un point de convergence qui devient énorme. Les personnes qu'on va inviter, tous les collectifs qu'on va inviter, au final, c'est des personnes qui vont rester, avec qui on va décider de nous s'organiser, on va tous évoluer. Et ça va nous permettre au moins de sensibiliser à peu près toutes les personnes qui habitent là ou qui côtoient le lieu de façon plus ou moins forte, quoi.
Au niveau de l'actualité législative, le 19 janvier prochain, une proposition de loi va être examinée par le Sénat afin de protéger la propriété privée contre les squats. Deux éléments à retenir dans cette proposition. La violation de domicile passerait de 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et le texte vise également à passer de la protection du domicile à la protection de tous les biens immobiliers. L'un des motifs justifiant cette proposition de loi repose sur la protection de la propriété privée, garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Rapidement, quel est votre avis sur ce nouveau texte? En quoi complète-t-il la législation française?
Eh ben, en vrai, c'est hyper intéressant. Mon camarade là vient bien d'expliquer les raisons le squat est un outil politique formidable parce qu'il peut nourrir les luttes, offrir des perspectives, permettre des conditions matérielles d'organisation sur différents fronts de lutte, la lutte pour le logement, les luttes sociales, les luttes écologistes, etc. etc. Mais du coup, on peut aussi interroger la question sur en quoi le squat en tant que tel est éminemment politique. Et je pense que cette évolution législative, elle est particulièrement intéressante. Il me semble que squatter, de la manière que on le fait, mais j'ai l'impression que la grande majorité des collectifs de squatteurs en France le font, c'est jamais s'attaquer à la petite propriété privée individuelle. Jamais. C'est-à-dire que la notion de domicile protège la petite propriété individuelle, défend le fait que chacun a le droit d'être chez soi, peinard, et de pas se faire squatter, même si on est au travail, même si on est à l'hôpital, même si on est en maison de retraite. Et c'est complètement logique, la petite propriété individuelle. Par contre, ce qui est extrêmement dangereux et ce qui est extrêmement flippant à notre sens, c'est vraiment la grande propriété, et notamment la propriété lucrative, la propriété spéculative. À savoir que les bâtiments qui sont squattés par nous, mais comme beaucoup de gens, souvent ça appartient soit au parc public, soit à des grosses entreprises, à des grosses structures. Personne s'attaque en fait quasiment à de la petite propriété appartenant à des personnes physiques. La loi, là, aujourd'hui, ce qu'elle est en train d'essayer de faire évoluer, c'est d'arrêter de protéger uniquement le domicile, ce qui est parfaitement normal, pour, dans un premier temps, avec la loi ASAP, commencer à protéger les résidences secondaires, pourquoi pas, même si on peut s'interroger autour de ça. Le nouveau projet de loi, et on sent vraiment que c'est un peu la logique qui est à l'œuvre dans toutes les évolutions législatives depuis quelques années, c'est de protéger la propriété immobilière en tant que telle, mais sans analyse sur qui possède cette propriété immobilière et dans quel but. Nous qui est de la propriété privée pour habiter, bien évidemment, qui est de la propriété immobilière pour spéculer, la propriété lucrative, c'est-à-dire que ta propriété te permet de faire du business et de générer plus d'argent, on trouve ça absolument scandaleux, inhumain, et il faut vraiment détruire cette chose-là. Pourquoi? Je vous explique tout simplement ça. Aujourd'hui, on parlait souvent qu'à Angers, et ça c'est les chiffres de l'INSEE hein, de juin 2018, qu'il y avait 12 900 logements vides et qu'à côté de ça, il y a environ 500 SDF. Partout en France, c'est la même chose. C'est uniquement lié à la propriété lucrative. C'est-à-dire que si chacun avait un logement et que les logements vacants étaient redistribués aux personnes SDF, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propriétaires qui avaient plus de logements que leur résidence, voire leur résidence secondaire, etc., et ben on n'aurait personne à la rue. Donc s'attaquer comme on le fait à la propriété lucrative, c'est-à-dire aux personnes morales qui sont des grands propriétaires immobiliers, fonciers, qui mènent de grands projets avec un objectif qui est bah, en fait de rémunérer des actionnaires, quoi, grosso modo, la plupart du temps, et ben pour nous c'est vraiment une lutte qu'il faut porter. Parce que tant qu'il y aura des gens à la rue et des bâtiments vides et des grands propriétaires qui achètent et qui vendent des biens, on s'arrêtera pas, quoi, clairement. Et c'est en ça que le squat il est profondément politique, et c'est précisément ce que ce projet de loi essaie d'attaquer, à savoir protéger la grande propriété immobilière et non plus simplement la petite propriété privée des simples gens, quoi.
Anatole, tu avais quelque chose à ajouter, il me semble.
Enfin, quand on parle en fait de la question politique du squat, beaucoup de fois on entend parler de, je sais pas, de personnes sans papier, de personnes qui sont à la rue, qui vont être dans les hyper précaires, mais je sais pas, j'imagine que pas forcément beaucoup de pères de famille par exemple ou de mères de famille vont se dire que c'est possiblement leurs enfants qui vont être touchés par ça. Et du coup sur Angers on se retrouve avec un cas vachement intéressant d'une ville étudiante qui n'offre rien pour les étudiants pour qu'ils puissent étudier, on va dire, de façon à peu près décente. C'est-à-dire que les logements, la gentrification est de pire en pire. C'est-à-dire que oui, les populations précaires se retrouvent vraiment, vraiment éloignées du centre. Les logements sont à un prix qui est, on va dire, plutôt déraisonnable. Le 2 pièces Angevin, par exemple, a été considéré comme le meilleur investissement français. C'est-à-dire qu'on en a pour 246 euros par mois pour un 9 mètres carrés, 346 euros par mois pour un 13 mètres carrés. Donc vous imaginez en tant qu'étudiant que c'est juste pas possible en fait pour la plupart d'entre eux, à part si tu viens d'une bonne famille. Et encore c'est assez compliqué qu'on a la crise du Covid qui t'empêche d'avoir un second job, sachant que ça va se passer souvent dans de la restauration ou que sais-je. En tout cas, la plupart de ces jobs-là sont morts pour le moment. Du coup, au final, continuer ses études, alors qu'en plus, il faut peut-être acheter un ordinateur pour pouvoir faire tes cours à distance, en fait, ça devient des problèmes qui s'empilent pour des personnes qui, au final, voulaient juste étudier dans une ville qui ne fait que cette pub-là, quoi. On a eu le CROUS qui était censé être, on va dire, assez solidaire pour les étudiants, qui était censé qui est censé leur offrir quelques solutions pour ça, qui s'est retrouvé du coup, par exemple, le 30 octobre dernier, à expulser, je sais pas, j'ai pas le nombre d'étudiants.
J'ai pas le nom précis. C'est pas vraiment une expulsion, mais c'est-à-dire que la prise en charge au camping, là.
Bah, c'est en gros la prise en charge a décidé d'être, que c'était mort et qu'on leur a dit qu'ils avaient en gros 3 jours pour partir à partir du moment où c'était annoncé le deuxième confinement.
Et on leur a conseillé d'appeler le 115.
Qui est déjà lourdement saturé. Et par exemple, à la Grande Ourse, on a pu le voir autant que sur d'autres. Autant que dans les rues, en fait. Hein. Sinon. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est dehors la nuit, c'est qu'il n'est pas au 115 et c'est peut-être qu'il a essayé de l'appeler. Généralement, c'est blindé à chaque fois. Donc, on se retrouve avec tous ces problèmes. On a eu en 2018 40 000 étudiants. Là, on se retrouve avec au moins 6 000 de plus. Il y en avait 1 000 à la rue en 2018. En 2019, on se retrouve avec 3 000 étudiants à la rue. Plusieurs amis de la fac, plusieurs amis de plusieurs cercles qui côtoient des étudiants nous disent que c'est énormément de personnes qui en fait dorment dans leur voiture, qui dorment chez des amis, qui s'entassent à 2, 3 pour 20 mètres carrés. Et du coup, oui, en fait, c'est une question qui au final touchera juste les précaires, qui est en fait la majorité de la population, et ça ne touchera pas que les personnes qui ont eu des gros dramas dans leur vie et qui se retrouvent à la rue pour telle ou telle raison. Non, en fait, ça peut considérer monsieur et madame tout le monde qui a décidé d'étudier et qui se retrouvent dans une. Dans une grosse merde, en fait.
Et je me permettrais juste, juste de remettre tous les faits sur la table simultanément. Genre, c'est quoi être étudiant cette année à Angers. C'est être confronté à une crise d'accès au logement sans précédent et donc pas forcément avoir son logement propre, parfois s'entasser dans des 9 mètres carrés du Crous à 3, 4, 5, enfin vraiment des conditions terribles. C'est l'université auquel les gens n'ont pas accès à cause des consignes sanitaires. C'est les petits boulots, comme tu me le rappelais, qui sont plus accessibles et qui sont une manne financière pour beaucoup, 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 beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Et puis c'est simplement pas de sociabilité normale du tout depuis des mois et des mois. Et je pense que là, il y a plus qu'une sonnette d'alarme qu'il faut tirer. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé à Lyon, c'est pas du tout, à mon avis, le fruit du hasard ou un fait divers ou quelqu'un simplement dépressif de manière individuelle, mais c'est une situation systémique. Et on espère sincèrement qu'il n'y a pas des situations similaires qui vont se dérouler sur Angers, quoi.
On l'espère également. On aurait pu continuer à discuter de ces sujets encore longtemps. On a déjà un peu débordé, malheureusement. Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça dans les semaines et les mois à venir. On retournera notamment, nous, à la rédaction, à la Grande Ourse, pour développer un peu également les activités, les différentes formes de soutien et de solidarité qui se manifestent là-bas. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans notre studio. Merci à Léo d'avoir l'idée de cette émission. On va se quitter. C'était donc la dernière Covidienne de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée sur les ondes de Campus.